Politique.
J'ai déposé mon bilan le 2 octobre à la commissaire à l'éthique. Tout le monde est au courant de mes actions, c'est un peu normal. Et toutes les mesures, encore une fois, toutes les mesures ont été prises à ce jour, depuis le 2 octobre. Et je respecte toutes les règles de la commissaire à l'éthique.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Paul Journet, éditorialiste à la presse. Carl Bélanger, consultant stratège. Bonjour à vous deux.
Salut.
Bonjour. On vient d'entendre Pierre Fitzgibbon, donc ce matin, le ministre de l'Économie, qui doit se défendre d'être en conflit d'intérêts. Voilà. Paul Journet, d'abord, rappelle-nous les faits.
Donc, Pierre Fitzgibbon avait une compagnie qui s'appelle Hérou DevTech, qui est un fournisseur de bombardiers. Pierre Fitzgibbon, avant de se lancer en politique, a siégé sur le conseil d'administration d'entreprise et il détenait des actions aussi d'Hérou DevTech. Il est élu en octobre, comme le veut la loi. Mm-hmm. Il rencontre la commissaire à l'éthique, place ses actions dans une fiducie sans droit de regard. En fait, il enclenche la démarche. Ça prend quand même quelques semaines. Je pense pas qu'on a fini le processus, mais on est en train de le faire. Et là, l'opposition dit, ben, Fitzgibbon est en conflit d'intérêts avec Bombardier. Parce que Fitzgibbon a dit, si jamais Bombardier demande une aide future, Québec devra l'examiner. Et Fitzgibbon est aussi en train d'aider les personnes qui vont perdre leur emploi à Bombardier à se retrouver un autre emploi. Et ce que l'opposition dit, et c'est ce qu'elle prétend, moi je trouve que c'est tiré par les cheveux, c'est qu'il est en conflit d'intérêts parce que s'il aide Bombardier, ça va permettre à Bombardier d'acheter plus de pièces à ses fournisseurs, dont cette entreprise-là, dont il possède des actions. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup de si. Et si on demande à la commissaire à l'éthique de faire une enquête, tant mieux, pourquoi pas, ça va enlever ça de la main des politiciens. Mais écoute, il faut falloir avoir la réaction, la réflexion de se demander qu'est-ce qu'on attend des politiciens. Il y a des règles en place, il les suit de façon tout à fait transparente. Et c'est vrai que Pierre Fitzgibbon a plein de liens avec le Québec Inc., mais c'est justement pour ça.
Ben oui.
C'est pour ça qu'il est en poste. Est-ce qu'on veut qu'il y ait seulement des diplômés en philo qui s'occupent du développement économique? Je dis philo parce que j'ai étudié là-dedans, donc je peux attaquer la philosophie.
Oui.
Mais on a quand même, puis ça lui permet d'avoir un bon réseau de contacts, puis d'avoir un certain respect quand il parle à ces personnes-là.
Oui,
et ajoutons aussi que je pense qu'il y a pour à peu près 100 000 $ d'actions. Écoute, pour moi, ça serait une fortune, mais pour lui, je pense que c'est, je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire que c'est de l'argent de poche, mais ce n'est pas ça qui va changer sa situation du tout au tout. L'opposition aimerait aussi qu'on lui retire le dossier des mains. Ben voyons, il commence à travailler dedans. Puis est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que, en fait, qu'est-ce que Fitzgibbon aurait dû faire? Il n'aurait pas dû aider les employés de Bombardier? Qui vont perdre leur job, aller ailleurs.
Mais non, mais là quoi, il aurait dû ne pas se présenter en politique tant qu'à faire. Là. Vas-y donc, Carl.
Mais ça, c'est souvent le problème. Hein. C'est que les gens arrivent en politique, ils n'ont pas un dossier vierge. Puis s'il y en avait un, ils ne se présenteraient pas parce qu'il n'y aurait pas les atouts nécessaires pour démontrer qu'ils sont des bons candidats. Ceci dit, pour l'opposition, c'est de bonne guerre de soulever des doutes parce que les gouvernements sont souvent défaits sur les questions éthiques. Et là, l'opposition commence à égratigner. Ce que les gens vont entendre, ce que les gens vont voir, c'est Fitzgibbon, CAQ, conflit d'intérêts. Et puis là, ben, on commence à égratigner l'armure et ça va prendre un certain temps. Mais c'est le genre de choses qu'on fait en politique pour tenter de nuire à la réputation du gouvernement. Ouais.
Là où il a eu une légère maladresse, c'est quand il s'est empressé lui-même à dire que si Bombardier demandait à nouveau de l'aide, Québec examinerait la demande avec intérêt.
Mais je pense que
je comprends que
c'est une erreur de débutant. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y a des
actions. Non, c'est pas une erreur d'éthique, c'est une erreur de jugement politique. Je comprends qu'il voulait rassurer les gens par rapport à l'avenir de Bombardier, mais encore là, si j'avais quelqu'un à critiquer, ça serait pas M. Fitzgibbon, ça serait plutôt l'entreprise Bombardier elle-même. Même, où le modus operandi, c'est toujours le même. S'ils sont en difficulté, ils demandent de l'aide. S'il y a une autre division qui est profitable, bien, ça s'en va dans les poches de la haute direction, mais jamais ils réinvestissent cet argent-là dans les entreprises qui sont plus en difficulté. En gros, s'il y a un risque, c'est l'État qui doit investir. S'il y a de l'argent à faire, ça reste dans leur poche à eux. C'est le même modus operandi qu'on a vu, y compris, entre autres, avec la cimenterie McInnis en Gaspésie, on s'en souvient. Je pense que c'est Michel Girard, ce matin, qui rapportait que Québec a fait un prêt. Et là, on demande à ce que le prêt soit converti en capital action. Donc, que Québec investisse. Pourquoi eux n'investissent pas l'argent qu'ils ont fait ailleurs?
En tout cas, moi, je vais vous dire, là, je l'ai vu cette histoire-là ce matin. J'ai entendu les explications de Fitzgibbon. Moi, j'ai déjà siégé au Conseil des ministres. Puis, je l'ai créé, cette fiducie, là, sans droit de regard. Enfin, je me souviens plus quel était le terme exact, là, mais bref, j'ai confié à quelqu'un la gestion de mon immense patrimoine avec des millions de dollars d'actions, fiez-vous sur moi.
C'est pour ça que tu es si bien habillé, les gens le voient pas à la maison. Mais... ça pue l'argent, ton linge, Bernard. Oh,
bah, ça pue. Alors, je peux juste vous dire, là, d'abord, juste le formulaire, là, la déclaration d'intérêt qu'il faut remplir, c'est pas de la petite bière. Moi, je vous le dis, là, ça m'a pris une bonne journée. J'exagère pas, là. Assis, tranquille, rempli, puis aller chercher l'information, puis la valeur de ton hypothèque, puis la valeur des magasins. Si ta blonde est en affaires, faut que tu rapportes ça. Faut que tu rapportes les actions, puis faut que tu rapportes... Écoute, c'est quelque chose. Alors, Fitzgibbon, il arrive en politique, il est nouveau, il n'est pas député, il faut qu'il se trouve un bureau de comté, il y a la famille à travers ça. Bombardier, c'est pas long que les problèmes se posent. Il faut qu'il s'installe dans son nouveau ministère. Il y a de la lecture à faire. Écoute, c'est un changement de vie complet. Et là, on va l'assommer avec un coup de masse parce qu'il y a 5000 actions des roues d'Evtech, puis il a peut-être pas été assez rapide pour amorcer le processus visant à déposer ces actions-là et le reste de son patrimoine dans Fidu. On peut-tu le donner un break?
Mais tout le monde est perdant là-dedans.
On peut-tu le donner un break à un moment
donné?
Parce que
si l'opposition arrête pas de faire que de garrocher de la boîte puis faire comme si tout le monde était potentiellement un pourri, ben c'est l'ensemble de la classe politique qui est salie.
Mais on est déjà là depuis longtemps. Je sais.
Ben, on a besoin d'un grand nettoyage dans ce cas-là.
Tu sais, il y en a un qui m'écrit, là, lâche de le protéger. Hey, lâchez-moi. Oui, je vais. Il faut poser des questions. Oui, mais là, oui, parce à que... sa face même, là, je veux dire, je veux bien poser des questions.
Je pense qu'on est d'accord, par contre, que c'est bien que la nouvelle commissaire à l'éthique fasse une enquête,
fasse une enquête
indépendante.
Lui-même
et si jamais.
À ça.
Oui, c'est ça. Mais si jamais elle découvre quelque chose d'incriminant pour Fitzgibbon, on sera les premiers à le dénoncer.
D'accord.
Mais je ne vois pas partir du point de départ en présumant que c'est un pourri.
Non, c'est ça. Exactement. Alors.
Mais il faut dire qu'à l'époque, la CAQ frappait fort sur d'autres cibles, notamment Pierre-Carl Péladeau, et que certains politiciens ont la mémoire longue. Mais donc, on leur donne la monnaie de la pièce.
Oui, c'est ça. Mais il y a une différence avec Pierre-Carl Péladeau. Lui, c'était pas. Pierre-Carl Péladeau, c'est vrai, n'était pas au Conseil des ministres.
C'est vrai.
Il était chef de l'opposition officielle. Par contre, lui avait refusé de placer ses actions dans une fiducie sans droit de regard habituel.
Strict,
c'est-à-dire qu'il avait donné un ordre à son mandataire de ne pas vendre.
C'est un mandat sans droit de regard.
Il l'avait annoncé avant son élection. Donc, il se disait que même dans l'hypothèse où il siégeait au Conseil des ministres, il voulait donner un mandat, une directive au fiduciaire de ne pas vendre.
OK. Parlons un petit peu de Poste Canada, si tu le veux bien, Carl.
Écoute, rapidement, les postiers ont refusé la trêve qui était proposée par Poste Canada de mettre fin à la grève et de remettre les négociations et tout ça après les fêtes. Il faut dire que là, la pression commence à augmenter sur Poste Canada parce que le temps des fêtes, c'est une période très importante pour eux. En même temps, le gouvernement fédéral est pris aussi avec ça. Là, on commence à parler peut-être d'une loi spéciale de retour au travail. Faut dire que la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante est sortie demandant ça, dit que ça coûte 3 000 $ par jour à certaines entreprises. eBay, qui est sorti également pour dire que c'était défavorable comme climat présentement. Et du côté du gouvernement fédéral, ben, on est ouvert à plusieurs options. Écoutons le premier ministre Justin Trudeau.
Nous sommes préoccupés par le fait que, évidemment, le temps des fêtes arrive, Noël arrive, des grosses journées d'achat s'en viennent. C'est important d'avoir une résolution et, comme on a dit, toutes les options sont sur la table.
OK. Donc, ça veut dire quoi, ça? Dépôt éventuel d'une loi spéciale d'ici quoi, quelques jours?
Il n'y a pas d'échéancier. Le gouvernement fédéral garde ses cartes très, très près. Il faut comprendre qu'en 2011, lors du dernier conflit de travail, les conservateurs étaient au pouvoir. Il y avait eu un lock-out de Poste Canada. Et là, les libéraux s'étaient opposés à la loi spéciale. Donc, eux, ils ont rencontré le syndicat hier, là, la ministre Quattro, le ministre Ajdou. Ils ont rencontré le syndicat pour les supplier d'en venir à une entente parce qu'ils ne veulent pas être forcés d'adopter une loi spéciale. Évidemment, ils tentent de créer des liens avec les syndicats. Ils ne veulent pas ouvrir la porte au NPD. Qui, lui, évidemment, tout à fait contre une loi spéciale en matière de négociation de travail.
OK. Donc, c'est à surveiller. C'est à surveiller, mais moi, juste avant d'aller à la pause, je trouve que Poste Canada joue avec le feu. puis en particulier le syndicat de Postes Canada là, joue avec le feu. Là. Il y a tellement maintenant d'autres alternatives, les UPS, les FedEx de ce monde là qui peuvent prendre le relais là, je trouve que ils devraient y penser longuement les postiers avant d'étirer ça trop longtemps parce que j'ai peur qu'ils finissent par donner des arguments à ceux qui pensent que le temps est venu de privatiser.
Voilà. Maxime Bernier est sorti là-dessus cette semaine disant exactement ça.
Ouais, j'aime pas tellement être comparé avec
Maxime
Bernier.
Toi et
Maxime Bernier.
Bernard.
Moi et Maxime même combat. Ouais, il est temps d'aller à la pause là. OK, de retour avec Paul et Carl. Paul, parle-nous donc de l'UPA donc qui a fait une sortie contre le troisième lien à Québec, donc le troisième pont ou le tunnel, on ne sait pas trop ce que ce sera.
Nouvel adversaire de taille contre le troisième lien. On savait déjà que le Parti québécois et Québec solidaire n'y étaient pas favorables. Le maire Labombe n'y était pas favorable, mais bon, il semble se résigner à la volonté très, très forte du gouvernement Legault d'aller de l'avant.
Et de la population, je dirais, dans la région de Québec.
Et d'une partie significative de la population. Mais exact. Là, on a un nouvel opposant, l'Union des producteurs agricoles, qui dit le troisième lien, ça va accélérer l'étalement urbain, qui est déjà pas mal grand, et ça va mener à la perte, entre autres, de terres agricoles, et c'est des terres agricoles très prisées. Donc, un troisième lien, une nouvelle infrastructure qui incite les gens à aller s'installer de plus en plus loin sur la rive sud de Québec. Et le nouveau ministre de l'Agriculture, c'est déjà un dossier sensible qu'il a sur sa table. Donc, son gouvernement est hyper en faveur du troisième lien.
Exact.
Mais l'UPA, le monopole syndical qui, lui, est contre, il a commenté la nouvelle ce matin. On peut l'entendre.
Ben, c'est la question de la protection des terres agricoles. Alors, quand il y a des projets qui sont faits, qui viennent mettre une pression sur les terres, il faut s'assurer que quand c'est fait, c'est selon les règles.
Ça, c'était André Lamontagne, nouveau ministre de l'Agriculture.
En gros, qui n'a pas dit grand-chose, mais que peut-il dire? Ouais, c'est-à-dire, il doit, tu sais, son travail, il doit se montrer sensible aux préoccupations de l'UPA, mais en même temps, son gouvernement est pour le troisième lien et il veut le construire le plus rapidement possible. Donc, il marche sur des œufs, il est écartelé entre les deux groupes.
On s'entend là-dessus. Carl, parle-nous du rapport du vérificateur général et en particulier d'un élément de ce rapport concernant les CF-18.
Oui, écoute, c'est assez fascinant. Faut se rappeler que le fédéral a annoncé qu'il allait dépenser près de 3 milliards de dollars pour notamment prolonger la durée de vie des CF-18, qui sont très vieillissants, mais aussi pour acheter des vieux avions de chasse australiens usagés. Et là, ce que le vérificateur général dénonce, c'est que il n'y aurait pas assez de pilotes pour les piloter, ces avions-là. Alors,
on va acheter des avions, mais on n'a pas de pilotes pour faire voler les avions. Qu'on va payer 3 milliards.
Y a-t-il un pilote dans l'avion, mon ami? Y a-t-il un pilote dans l'avion? Alors, ce que le rapport dit, c'est que la Défense nationale disposerait d'à peu près du 2/3 des pilotes de CF-18 qualifiés pour satisfaire aux exigences opérationnelles. Donc, on a des gens qui vont à la retraite, ils sont pas nécessairement remplacés au même rythme. Et puisque la flotte est vieillissante, ben on n'a pas nécessairement des aéronefs à fournir maintenant. Et lorsqu'on en achète, on a un retard à combler au niveau de la formation. Et donc là, ça va causer des graves problèmes parce qu'on aura des avions qui ne seront pas en mesure d'être utilisés pleinement.
Bon.
Et dans le contexte où on veut augmenter notre participation à certaines missions, peut-être, c'est fait partie des choses qu'on a mentionnées lorsqu'on voulait justifier l'achat de ces avions-là, mais là, on aura un problème parce qu'il n'y aura pas de pilote.
Ouais, OK. Ça, c'est vraiment pas fort. Mais en tout cas, on va voir comment le gouvernement va gérer ça. Parlant du gouvernement, il continue à mener la charge sur la question des Franco-Ontariens. Il mène la charge contre les conservateurs.
Mais oui, ils font de la politique avec ça, c'était normal. Les conservateurs sont sur la défensive. Je vais faire écouter un extrait d'Alain Reyes hier qui tentait d'expliquer la position de son parti. On peut écouter ce que ça a donné.
Un appui sans équivoque aux communautés de langue officielle en situation minoritaire partout au Canada. Le bilinguisme canadien est une force et un atout que l'on doit chérir et protéger. Nous respectons également les juridictions provinciales et il est malheureux, Monsieur le Président, que ce gouvernement libéral joue de la base politique avec un enjeu aussi important.
Bon, OK.
Tu comprends? Okay. Là, les libéraux sentent une opportunité, ne gênent pas. Yeah. Mélanie Jonier en a remis pendant la période de questions. Écoute bien ça.
Je demande au chef conservateur, en fait, de faire en sorte qu'il parle à son patron Doug Ford en Ontario et qu'il fasse en sorte de faire reculer le gouvernement conservateur par rapport à cette décision.
C'est la Mélanie 2.0.
Son patron.
2.0. Son patron. Mais là, Jolie n'a toujours pas réussi à rencontrer Caroline Mulroney.
Elle a eu un retour d'appel du bureau de Mulroney.
Oui.
Oui, il y a eu un retour d'appel. Une conversation téléphonique pour vendredi.
Et donc, ça se fera peut-être vendredi. Il y a aussi le comité des langues officielles qui a déposé une motion pour inviter Mme Mulroney à venir expliquer la décision de son gouvernement. Fin de non-recevoir, Caroline Mulroney ne se présentera pas. Et finalement, bataille de motion hier sur la colline. Hein, le Parti libéral a déposé une motion pour dénoncer la décision du gouvernement ontarien. Les conservateurs ont dit non, sont revenus avec leur contre-motion pour dénoncer ce qui se passait, mais avec un peu un respect des juridictions provinciales. Les libéraux ont dit non. Alors, au lieu d'avoir une motion unanime du Parlement fédéral qui dénonce, ben on a pas grand-chose.
Une classe politique divisée. Mais il y a quand même eu cette motion adoptée au comité des langues officielles. À l'unanimité, là, les conservateurs ont voté pour, demandant à Mulroney de venir témoigner, ministre responsable des services francophones en Ontario. Et comme tu l'as si bien dit, elle a refusé. Oui. Je veux qu'on s'arrête là-dessus parce que je veux garder les dernières 30 secondes pour informer les auditeurs. À 13h20, on va avoir Jean-Marc Léger. Jean-Marc Léger, là, il va venir nous parler de votre indice de bonheur. Et là, si ça vous tente d'aller sur indicedebonheur.com, si vous avez quelques minutes, indicedebonheur.com, remplissez le petit questionnaire, ça prend une dizaine de minutes, et on va en discuter à 13h20, puis vous pourrez peut-être m'appeler pour me dire c'est quoi les résultats. Est-ce que selon le questionnaire, vous êtes quelqu'un d'heureux? Moi, je vais le remplir dans un instant. Merci, Carl. Merci, Paul.
Salut.